Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez les oreilles loin du front. Alors ce soir dans le dossier du jour, nous allons parler du syndicalisme au Brésil puisque nous avons en plateau Kimi Tomizaki qui est donc sociologue brésilienne et qui a fait une thèse autour des métallurgistes de l'ABC Paulista qui est donc la région industrielle de São Paulo. Elle a aussi écrit un article dans la revue des actes de la recherche en sciences sociales, deux générations de syndicalistes au Brésil, pratiques quotidiennes et formation politique, et c'était dans la revue des actes de la recherche autour de usines, ouvriers, militants et intellectuels. Et il se trouve qu'on avait fait une émission aux oreilles loin du front sur cet acte de la recherche. Et vous pouvez aller sur notre site internet pour la réécouter, www.loldf.org. Mais on va se mettre dans l'ambiance fin des années 70, début des années 80. Ça chauffe au Brésil. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Et c'était un peu de punk brésilien des années 80 avec As Mercenarias et Polícia Vai. Donc c'était les policiers. Puisque ce soir, nous allons parler de syndicalisme, de répression syndicale, mais aussi de victoire. Puisque nous avons la sociologue Kimi Tomizaki en plateau. Bonsoir.
Bonsoir.
Qui a donc travaillé sur les métallurgistes de l'ABC Paulista, donc c'est la région industrielle de São Paulo, et en particulier sur les grandes grèves de 1978. Alors avant de t'écouter parler de la situation en 78, on va écouter un peu d'archives sonores. Alors c'est des archives sonores brutes, c'est-à-dire un peu no comment, et en brésilien. Donc on vous laisse, auditeurs, un peu prendre le son de cette époque-là.
1980. As vozes que se levantam são as dos trabalhadores do ABC Paulista. Uma consequência natural do processo de abertura seria a luta por melhores salários e condições de vida. Contudo, a batalha que se vai travar refere-se também aos destinos da redemocratização do país, indo além do conflito entre patrões e empregados. Este conflito era o pano de fundo. A sorte da titubeante abertura é que, na verdade, estava em jogo. O confronto que se deu foi entre o aparelho militar do Estado e os trabalhadores. O objetivo era impedir o exercício democrático, o direito de organização e luta dos trabalhadores. Teutônio esteve presente, lutando até o fim para evitar um choque de graves consequências.
Só tentou já reabrir as negociações. Existe alguma perspectiva nesse momento?
Que eu tenha conhecimento, não. Continuamos a tentar, a pedir conversações, a pedir entendimento. Mas até hoje, infelizmente, não encontramos com quem conversar. Na verdade, não há interlocutor. Isto é profundamente triste.
Você vai para Brasília hoje, senhor?
que nota doidado pedindo prestado e ninguém prestou. Fui no chão a latinhas querendo fiado, mas ele negou. Meu ordenado apertado, coitado, engraçado, desapareceu. Fui até lá pro cavalo, joguei na cabeça, mas ele não deu. Você não sabe que é amarelo. Eu não sei quando vai ser. Já corri pra todo lado, fiz aquilo que deu pra fazer. Esperar por um milagre pra ver se resolve esta situação. Minha fé já balançou, eu não quero sofrer outra decepção. Você sabe que a maré.
Companheiros, depois de 2 dias de ausência, nós voltamos aqui. A diretoria do sindicato volta para assumir a greve que nós começamos no dia 13. Todos vocês sabem o que fazer amanhã de manhã. Todos vocês sabem o que fazer. Nós fizemos 10 dias consecutivos. 10 dias! Ninguém pode ter esquecido isso.
Os operários do ABC não são apenas motores que produzem as divisas nacionais. Também são a mola que atira adiante o nosso trabalho de artistas.
Nossos companheiros do ABC possam continuar na sua justa, legítima razão de greve para que eles possam tornar as suas reivindicações uma realidade. Vocês, com a vossa presença, estarão ajudando para que eles concretizem os seus propósitos. Muito obrigada.
Et oui, c'était les sons des sons de la rue de San Paolo en 78-79. Alors, il y avait les chiens des policiers, il y avait les hélicos qui lançaient les bombes lacrymogènes, il y avait les bruits des canons à eau, il y avait les bruits des ouvriers dans la rue, ils étaient des milliers, des métallurgistes, et il y avait les bruits des artistes qui chantaient pour leurs compañeros grévistes. Et puis, voilà, c'était quand même... Un des moments qui a changé l'histoire, en tout cas une partie de l'histoire du Brésil. Donc c'est cette grande grève de 1978, la grève des métallos. Et il y avait Lula qu'on a un tout petit peu entendu dans cette archive, mais puisque l'archive n'était pas traduite, peut-être que vous ne l'avez pas vraiment comprise. Mais on a en plateau Kimi Tomizaki, sociologue, professeur à l'université de São Paulo, et qui a justement travaillé sur les métallurgistes de l'ABC Paulista. Donc l'ABC Paulista, c'est la région industrielle de São Paulo, et c'était là où il y avait où le mouvement des grévistes de 78 a été lancé. Donc bonsoir Kimi.
Bonsoir.
Et justement, on va revenir avec toi un peu sur l'histoire de cette grève de 1978. Alors peut-être que tu pourrais nous en dire un peu plus et de savoir quels étaient les enjeux au départ de cette grève.
Voilà. Bon, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Je suis très contente d'être là, d'avoir l'occasion finalement de discuter mes recherches sur les syndicalistes et sur les ouvriers de la région qu'au Brésil on appelle ABC Paulista. Et alors, ce qu'on doit dire lorsqu'on commence à penser sur les grèves qui ont commencé en 1978, après exactement 10 ans qu'il n'y avait pas aucune grève au Brésil, parce qu'en 1968, on a eu la fermeture du régime militaire. Donc là, on a perdu les droits de grève, on a perdu tous les droits de faire des manifs, on a perdu quand même les droits comme des citoyens.
C'était une dictature quand même, le Brésil, il faut le rappeler.
Voilà. Ouais, voilà. Et en 1968, ça a été beaucoup plus fermé. Et en 1978, là, on va voir cette grève qui a explosé dans la région de l'ABC et qui était tout à fait inattendue, soit par le régime militaire, soit pour tous les patronats. Et donc c'est étonnant, tellement étonnant que comme vous avez mis cet enregistrement, que ça me touche vraiment toujours beaucoup, les artistes, toute la gauche étaient en train de donner des soutiens à ces ouvriers-là. Donc pour penser à ça, il faut penser du coup que la région de l'ABC est là, elle garde toujours de quelques spécificités. Tout d'abord, il faut penser que c'est une région qui elle a réussi entre les années 1960 et 1980 un énorme contingent d'immigrants qui sont venus.
Et qui venaient d'où, ces migrants ?
Ils viennent surtout du nord-est du Brésil.
Qui est une région plus pauvre.
Qui c'est la région plus pauvre, pardon. Et en plus, ils sont venus aussi du Minas Gerais, du Paraná. Ils sont venus de petits villages, mais de São Paulo, mais ils sont plutôt du nord-est. Donc, cette migration a fait une explosion des populations. Moi, j'ai quand même quelques données que je crois que c'est important de dire qu'en 1960, on avait dans la région de l'ABC 500 000 habitants. Et ça va devenir, en 1970, 980 000. Et en 1980, on avait déjà 1 million.
Plus d'un million d'habitants.
Plus d'un million. Donc là, on a une région où il y avait des métallurgistes, mais ils étaient très, très concentrés dans des quartiers ouvriers. Ça, c'est tout à fait différent par rapport à São Paulo, à la ville de São Paulo, où il y avait beaucoup de métallurgistes aussi, mais ils étaient toujours divisés dans des petites usines. C'était beaucoup différent par rapport à la région de l'ABC. Donc, il y avait quelque chose qu'on doit penser toujours, que c'était cette concentration des ouvriers, plutôt des migrants, qui sont venus sans qualification, sans scolarisation, mais par contre, ils avaient des énormes attentes par rapport à ces processus de faire la migration, qui c'est un processus assez dur, on sait, c'est partout la même chose. Ils sont arrivés dans une région pour travailler dans des énormes usines, donc il y avait une énorme concentration aussi, qui c'est différent de la ville de São Paulo, par exemple. Juste pour donner un exemple, chez Volkswagen, on avait, en 1978, 40 000 ouvriers dans la même usine. Et en général, ils habitaient aussi tous ensemble dans les mêmes quartiers. D'autre côté, on a aussi l'influence, un travail assez important de l'Église catholique, de la théologie de la libération dans tous les quartiers, presque tous les quartiers de la région de l'ABC. Et donc là, ça commence à faire un mouvement. D'un côté, on a des gens qui ont fait la migration, qui voulaient voir, qui envisageaient finalement une façon de vivre avec des dignités, si on peut dire comme ça. Ils ont sorti, ils ont quitté les régions pour trouver un bon travail, pour trouver un salaire qui pourrait assurer une vie plus ou moins
meilleure,
un peu plus tranquille, comme ça. Voilà. Et donc là, quand ils sont arrivés à la région de l'ABC, c'était pas du tout ça. Finalement,
ils travaillaient, là tu parlais de Volkswagen, mais voilà. C'était quoi les entreprises qu'il y avait? C'était des grosses multinationales?
Des grosses multinationales, tous concentrées à la région de la BC. Donc on parle sur la Volkswagen, Mercedes, la Ford, Scania, en plus la General Motors. Sont les plus importants. Après est venue aussi la Toyota qui s'est installée aussi à San Bernardo do Campo. Donc on avait des grandes entreprises et à côté des toutes petites entreprises qui travaillaient pour faire des petites pièces, des choses comme ça, pour ces grandes entreprises. Mais il y avait ce phénomène de tous habiter ensemble et ça faisait beaucoup de différence finalement. Et alors, il faut dire que la grève de 1978, elle a commencé avant. On peut dire qu'elle commence finalement plus ou moins entre 1973 et 1974, quand les syndicats des métallurgistes commencent finalement à faire des campagnes salariales qui vont toucher, qui vont frapper directement le régime militaire. Donc, on peut dire que jusqu'à ce moment-là, les syndicats des métallurgistes, ils avaient plutôt une prise de position conservatrice. Ce n'était pas exactement comme les syndicats de São Paulo, parce que les syndicats des métallurgistes de São Paulo, c'était un syndicat tout à fait attaché au régime militaire. Ce n'était pas du tout le cas dans la région de l'ABC. Dans la région de l'ABC, on avait quand même un syndicat qui avait des soucis par rapport au régime militaire. Et ça, on comprend quand même, parce que c'était un régime militaire. Il avait des gens en train de disparaître. Il avait des gens assassinés, torturés. Donc, la direction du syndicat des métallurgistes au ABC, il faisait quand même des soucis. Mais il y a eu un moment qui c'était plus possible de continuer comme ça, parce que on va voir que pendant ces années, la moitié des années 1970, 10% par exemple des ouvriers métallurgistes de la région de l'ABC, donc la plus puissante du Brésil, la plus riche, ils étaient en train d'habiter dans des favelas. Donc, la tension commence à monter, les usines arrivent à faire des pics de production énormes. Et pour gagner un peu plus de l'argent, parce que les salaires étaient assez bas, les ouvriers vont faire des heures supplémentaires. Donc, ça veut dire travailler en général des mois, parfois des années sans avoir des congés, sans avoir de vacances, sans avoir de week-end. Donc, ça commence à devenir une situation
impossible à vivre pour ces ouvriers, ces ouvrières.
Voilà, c'est insupportable. Et là, en 1973, 1974, c'est la première fois que ce syndicat va faire une campagne salariale. Il va toucher, il va frapper directement le régime militaire. Il va mettre en cause quand même les... parce que finalement, on était dans un moment qui la négociation salariale, elle s'est donnée entre les gouvernements et les ouvriers, pas entre les ouvriers et les usines.
Les patrons n'avaient rien à dire, en fait, dans cette histoire.
En fait, ils disaient beaucoup, mais ils disaient directement au régime militaire. Voilà. Il ne disait pas. Il n'avait pas besoin, finalement, de négocier avec les ouvriers, parce qu'entre les patronats et les ouvriers, il avait les régimes militaires.
C'était les militaires qui décidaient tout, finalement.
Oui, et c'était très, très bien pour toutes ces grandes entreprises, parce qu'ils n'avaient pas de problème. Les ouvriers ne pourraient pas faire des grèves, ils ne pourraient pas faire rien. Donc, il fallait plutôt accepter les salaires, et c'était comme ça. Bon, finalement, là, ils vont commencer à toucher. Et la campagne salariale de 1974, elle a été un pas assez important, parce que les métallurgistes, ils vont comprendre que finalement, il avait vraiment des problèmes avec le régime militaire, qu'il ne pourrait pas continuer dans cette situation. Même si on peut dire, en général, les métallurgistes de la région de l'ABC, ils n'ont pas eu la même tradition politique de la région de São Paulo. Donc, ils n'avaient pas une tradition, une culture ouvrière, parce qu'ils sont venus tout de travail...
De leur campagne, en fait.
De leur campagne, finalement, de travail rural. Ils ne savaient pas, en général, sur les enjeux du régime militaire.
Mais j'imagine qu'il y a eu une conscientisation, il y a eu un travail des syndicalistes pour
les toucher.
C'est juste
ça. Donc là, les syndicats commencent à faire des choses qui, ça peut être des choses petites, mais pendant le régime militaire, c'est quand même de grandes choses. Que c'est aller à la porte de l'usine pour donner les journaux, la presse syndicale, qui ne pourrait pas du tout entrer dans des usines. Ils étaient là. Et donc là, tout de suite, ils commencent à être arrêtés par la police, déjà, en 1974. Ils sont mis en prison pour quelques jours. Et donc, ça commence à monter. En 1978, finalement, il avait l'espoir d'une campagne salariale assez importante. Et ça n'a pas arrivé du tout, parce que le régime militaire, il a donné finalement un donné des compositions salariales assez bas. Par rapport à tous les calculs.
Par rapport aux revendications.
Par rapport aux revendications, voilà. Et donc là, tout ça a commencé chez Scania, qui c'est encore une des plus petites usines de la région de l'ABC. Dans ce moment-là, elle avait plus ou moins 5 000 ouvriers. C'était rien par rapport à Volkswagen, par exemple. Et c'était juste là, dans les 12 mai 1978, que les ouvriers plus qualifiés, ils ont pris une décision qu'ils ne pourraient plus continuer, ils ne pourraient plus continuer à travailler avec ces salaires-là. Donc, à minuit de ces jours, ils ont arrêté la section et le jour lendemain, la Scania s'arrêtait. C'était la première et dans 30 jours, cette petite session des ouvriers qualifiés, on va tomber dans une grève avec 300 000 ouvriers à la région de l'ABC, à São Paulo, et ça touchait quand même les Rio et Minas Gerais.
Mais quand on voit les archives dont j'ai pris le son tout à l'heure, c'est très très impressionnant parce que c'est vraiment des milliers et des milliers de métallurgistes dans la rue qui sont là avec...
Voilà, donc qu'est-ce qu'on a ? On a un mécontentement énorme qui monte de plus en plus. Et donc là, quand l'Escania a commencé ça, il faut dire, les syndicats des métallurgistes, ils n'étaient pas à la tête au départ, mais tout de suite, ils ont pris la responsabilité sur la grève. Et finalement, presque tous les syndicalistes, dans ce moment-là, Lula, il était déjà le président du syndicat.
Il était très jeune, d'ailleurs, pour un syndicaliste ouais, à l'époque.
Voilà.
Hein.
Il n'avait aucune expérience. Personne n'avait d'expérience, finalement, avec des grèves, parce qu'on était dans un régime militaire, il avait longtemps. Donc, il ne savait pas, finalement, quoi faire. Et ça, on peut dire, je crois que c'est important, quand même, de dire que, par rapport aux ouvriers de São Paulo, et par rapport les syndicalistes de São Paulo, les syndicalistes de la région de l'ABC, ils n'avaient pas du tout d'expérience, ils n'avaient pas du tout de formation politique. Et ça peut apparaître au départ comme une faiblesse. Et c'est vrai, c'est une faiblesse. D'autre côté, ça a permis quand même toutes sortes d'expérimentations qu'ils ont faites ensemble, qu'ils ont trouvé des moyens pour résoudre les problèmes et pour faire des sortes de grèves assez différentes. Donc, chaque entreprise a commencé à décider sur ces grèves avec les syndicats, évidemment, mais ils ont fait de manière différente. Ça veut dire entrer dans l'usine et s'arrêter dans l'usine, ne pas entrer dans l'usine. Entrer dans l'usine, ne sortez plus. Il y a quand même des usines qui ont été occupées pendant une semaine, des choses comme ça. Donc, on va voir des expériences tout à fait différentes d'un groupe des ouvriers qui ne connaissaient pas du tout la politique, qui ne connaissaient pas du tout le syndicalisme, ne connaissaient pas du tout la possibilité de se mettre en confrontation contre les patronats. Et là, les ouvriers vont sentir pour la première fois à la région de l'ABC la violence du régime militaire. Parce que là, tous ces bruits qu'on a écoutés, les chiens,
les hélicoptères, les canons à eau, Voilà. Il y avait quand même, c'est excessivement violent, hein, puisqu'il y a des arrestations, voilà. Des coups de matraque.
Ouais, il y a eu une répression assez violente dans toutes les rues, dans les quartiers quand même de la région de l'ABC. Et là, ils ont compris qu'on était dans un régime autoritaire et qu'on ne pourrait pas s'exprimer. Et tout de suite, les ouvriers de la région de l'ABC vont prendre comme drapeau pas seulement les salaires, pas seulement les conditions de travail, mais aussi la redémocratisation du pays. Et est là qu'on va voir qui va être né l'idée d'avoir un parti de travailleurs pour affronter les régimes militaires et pour recommencer finalement la redémocratisation du pays.
Oui, c'est la naissance du PT finalement, de Lula, non, c'est pas Lula qui
oui,
est...
Voilà. Il n'est pas
en France, c'est l'image, voilà, le Parti des Travailleurs, c'est Lula, mais évidemment, il y avait des milliers de gens qui se sont investis dans ce syndicat et qui se sont investis après dans ce Parti des Travailleurs, qui est quand même l'initiation, voilà, c'est le début de la démocratisation.
Voilà, donc c'est exactement ça, c'est évident que le Parti des Travailleurs, il continue toujours attaché à l'image de Lula, en plus... à l'image des ouvriers de la région de l'ABC, mais évidemment, comme vous avez montré dans les petits enregistrements, il avait le soutien des artistes. En plus, il avait une énorme partie de la gauche brésilienne déjà organisée qui rejoint finalement les partis des travailleurs.
Parce qu'il y avait tous les intellectuels aussi qui étaient
tous les intellectuels, voilà. On a des récits assez importants sur la création du Parti des travailleurs qui disent toujours, voilà, il avait là-bas les socialistes, les communistes, les anarchistes, des gens qui avant ne pourraient pas être dans le même endroit, mais finalement, avec les partis des travailleurs, la force de ces mouvements ouvriers de la région de l'ABC, finalement, ils ont trouvé une manière de faire directement affronter les régimes militaires, parce que ce n'était pas du tout possible. On a eu des organisations de gauche au Brésil qui étaient tout à fait détruits pour les régimes militaires. Presque tous les militants étaient arrêtés, ils étaient morts, assassinés. Donc, c'était un moment, comme vous avez dit, c'était un moment très important pour la redémocratisation du pays, un moment très important pour les mouvements ouvriers au Brésil.
Ce qu'il faut dire, c'est que la grève, il y en a eu en 78, mais ça a continué. En 79, il y avait près de 3 millions de travailleurs qui se sont mis en grève. Alors après, c'est dans toutes ces petites usines, donc forcément, ça s'accumule voilà. Dans tout le pays. Mais ils sont restés quand même excessivement impliqués dans le mouvement social.
Voilà, donc là, on a, en 1978, une grève assez importante, étonnante comme ça. En 1979, donc là, quand la grève a commencé, tout de suite, les régimes militaires ont pris les syndicats, a arrêté toute la direction du syndicat. Et donc, les ouvriers ont resté quelques jours sans savoir quoi faire. Et finalement, quand Lula il a sorti de la prison... il a fait une négociation pour arrêter la grève en 1979 et pour recommencer après quelques 45 jours. Ça n'a pas continué. Donc, en 1979, ils vont prendre, ils vont comprendre finalement d'une façon assez dure que les syndicats, ils avaient besoin d'avoir plus de soutien parce que la direction pourrait être tout arrêté parce que les bâtiments du syndicat étaient avec les militaires et ne pourraient pas rentrer. Et donc, ça commence à faire la catégorie s'y bouger pour préparer la plus grande de toutes les grèves qu'on a eues, qui c'était en 1980. Et là, on a eu 42 jours de grève, peut-être la plus grande grève qu'on a eue entre les ouvriers à la région de l'ABC. Ils vont se préparer avant, avec beaucoup de soutien de l'Église catholique, toujours, et des gens de la théologie de la libération. Et là, ils étaient prêts, finalement, dans cette année, c'est la même année, finalement, que les partis des travailleurs est né.
Alors, en 78, la grève, là, dont on a entendu les archives, finalement, les revendications, est-ce qu'ils avaient gagné quelque chose, les métallurgistes, à cette époque-là, en 78
à 78
sur leurs revendications salariales.
Oui, c'était énorme finalement. C'était, plus, je crois que c'était 74%
d'augmentation.
Parce que l'inflation, c'était énorme. C'était une inflation tout à fait folle. Donc, il avait une revendication quand même très, très haute parce qu'il avait d'un côté l'inflation et d'autre côté, il avait quand même déjà un salaire qui n'était pas du tout bien. Donc, c'était ça. Il faut dire qu'en plus, qui gagnaient les salaires, ils ont réussi à gagner l'augmentation salariale. Ils ont beaucoup augmenté les salaires. Ils ont commencé finalement avec ces mouvements quelque chose qui est assez important dans la région de l'ABC, que c'est l'organisation des ouvriers dans les endroits de travail. Donc, ça veut dire dans l'usine. Donc, ils vont commencer à disputer l'espace pour avoir un comité d'entreprise qui pourrait organiser les ouvriers dans chaque entreprise. Et ça, c'était quelque chose qu'on ne pourrait pas du tout imaginer à la région de l'ABC, surtout dans des usines multinationales. Par exemple, si on prend l'exemple des entreprises allemandes, la Volkswagen et Mercedes, elles étaient des usines très, très violentes. Très, très autoritaire, avec une hiérarchie très, très forte, très, très puissante. Et là, c'est incroyable qu'il pourrait faire quelque chose. Et finalement, on a pas mal de soucis, des récits comme ça dans des différents études des chercheurs brésiliens qui vont raconter finalement que les ouvriers, ils vont comprendre qu'ils avaient un énorme pouvoir. Et donc, ils ont commencé à essayer de faire des choses dans des entreprises. Et ça veut dire parfois de monter sur la table du chef pour faire un discours en disant qu'ils avaient le droit de lutter. Ils avaient le droit de lutter pour les salaires, pour l'augmentation salariale, qui voulaient le droit d'avoir une maison, qui voulaient avoir une bonne école pour ses enfants. Donc, tout ça commence à venir pour cette génération d'une façon tout à fait nouvelle, parce qu'ils ne connaissaient pas du tout les enjeux pour faire la lutte politique.
Il y a toute une culture de la formation aussi dans ce nouveau syndicalisme. D'ailleurs, toi, tu parles de nouveau syndicalisme brésilien. C'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau.
Voilà. Et donc là, on commence à parler sur ce nouveau syndicalisme ou le syndicalisme authentique, comme ils ont dit au Brésil. Et ça veut dire nouveau par rapport à quoi, non? Nouveau par rapport, d'un côté, la tradition communiste au Brésil, le Parti communiste, qui c'était plutôt une manière de faire le syndicalisme avec, si on peut dire comme ça, un souci pour garder toujours la condition d'être un parti. Le Parti communiste au Brésil, il faut dire, c'est le plus ancien parti du Brésil. Et c'est le parti qui a laissé la plupart du temps dans une situation irrégulière.
Illégale,
voilà. Dans une situation illégale. Donc, il avait ce souci de parti d'être dans une situation légale. Et parfois, ça tombait dans des situations comme un obstacle pour faire développer le syndicalisme, parce qu'il avait toujours cette préoccupation de faire une sorte de collaboration des classes, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, on sait que ce n'était pas vrai que les partis communistes au Brésil, il a fait toujours des syndicalismes comme ça. Mais il avait, par contre, d'autre côté, la tradition du syndicalisme jaune, tout à fait jaune, qui c'était le syndicalisme des métallurgistes à São Paulo, où il avait une opposition très importante de gauche, des organisations de gauche, mais qui n'arrivait pas jamais à gagner les élections parce qu'il avait une pression énorme contre eux sur le régime militaire. Donc, ces syndicats-là de São Paulo, c'était ces syndicats attachés au régime militaire. Et la région de l'ABC, ils étaient nouveaux comme nouveaux à la politique, nouveau par rapport aux autres traditions syndicales et qui était en train de faire des choses vraiment nouvelles. Donc, même si on pense toujours que c'est évident que ce modèle aussi, il a eu des limites, c'était pas quelque chose révolutionnaire, si on peut dire comme ça, mais il a quand même réussi à faire changer beaucoup de choses. Donc, le nouveau syndicalisme, il faut dire, il faisait une critique radicale contre les mécanismes de liaison entre les syndicats et l'État. Il faisait la défense du droit de grève et de la négociation directe entre les employeurs et les employés, sans intervention d'État, la lutte pour la liberté et l'autonomie du syndicat par rapport à l'État et l'organisation des travailleurs dans les lieux de travail. Et pourquoi, si des revendications de faire éloigner l'État du syndicat. Ça, c'est quelque chose qui, parfois, c'est compliqué d'expliquer quand on est dehors du Brésil, mais finalement, le syndicalisme au Brésil, il est né très, très attaché à l'État. Ça a arrivé pendant les années 1930, quand les syndicats ils vont avoir une loi propre. Et cette loi, elle, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, les syndicats, pour être un syndicat, il doit être reconnu par le ministère du Travail. Donc, on continue toujours attaché à l'État. L'État a encore un pouvoir. Et en plus, on a un autre problème qui est assez grave, qui a commencé aussi dans la même époque, les années 1960. Pardon, 1960-30, qui c'était les problèmes de l'impôt syndical. Non? Donc, au Brésil, on est obligé, presque toutes les catégories, on paye un jour par an par notre syndicat, même si tu n'es pas syndiqué.
Ok, mais tu peux choisir quand même ton syndicat
Pas trop, finalement.
Pas trop. En fait, c'est le syndicat du patron de l'usine.
Voilà, parce que finalement, si tu as un syndicat qui est déjà enregistré au ministère du Travail, par exemple, s'il y a les syndicats des journalistes de Paris, donc dans la municipalité de Paris, il y a un syndicat de journalistes, vous êtes tous obligés.
On n'a pas le choix, en fait.
Non. Et donc là, finalement, les syndicats des métallurgistes de la région de l'ABC, il a eu besoin d'aller à la justice pour ne pas recevoir cet impôt et vivre seulement avec l'argent qu'ils peuvent garder parce qu'ils ont beaucoup de syndiqués, finalement. Non?
Et de soutien.
Et de soutien politique, voilà. Donc, c'est un vrai syndicat. On a les autres syndicats qui sont les syndicats des papiers. Donc, ce ne sont pas des vrais syndicats. Et cette loi, elle permet que ça continue. Donc là, les trucs, c'est... Ça peut être un peu bizarre de dire le syndicalisme authentique, c'est assez trop, mais ça veut dire juste un syndicat qui voulait vraiment faire un travail syndical avec la base, avec les ouvriers. Voilà.
Alors ce soir, on parle de syndicalisme, les oreilles loin du front, avec Kimi Tomizaki, qui est donc sociologue brésilienne et qui travaille sur le syndicalisme justement au Brésil.
Bom de bola, jogo com calor, canto na viola, sempre
Et vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Et ce soir, nous parlons du syndicalisme au Brésil avec Kimi Tomizaki. Alors tout à l'heure, avant la pause musicale, nous étions à la fin des années 70 et au début des années 80 avec les grandes grèves et la création, l'émergence d'un nouveau syndicalisme. Un nouveau syndicalisme qui est à l'origine du Parti des Travailleurs, le Parti des Travailleurs de Lula. Alors justement, peut-être qu'on va peut-être avancer dans le temps et voir justement ce que la démocratie et l'arrivée de l'organisation d'un nouveau parti des travailleurs a fait sur l'évolution du syndicalisme au Brésil. Comment ça a changé dans les années 80-90?
Voilà. Donc là, on a aux années 80 déjà de certaines différences parce que finalement, les partis des travailleurs ont commencé et les syndicalistes de la région de l'ABC, ils vont être les premiers candidats pour les partis dans cette région. Évidemment, on avait des candidats pour tout le Brésil, mais il faut dire, par exemple, je crois que c'est quand même symbolique, c'est important, emblématique, que le premier maire qui a été élu par les partis de travailleurs, c'était Gilson Menezes, l'ouvrier, le syndicaliste, finalement, qui a organisé les grèves à Escania. La première grève de 1978, il a devenu le premier maire élu par le parti.
Symboliquement, c'est quand même assez important. La première grève, le tout début.
Et dans une ville qui s'appelle Diadema, qui c'est toujours une ville qui continue un bastion rouge, si on peut dire comme ça. Et donc, ça, c'est important. Donc, les syndicalistes, pendant les années 1980, ils vont se lancer dans cette nouvelle expérience. Ils vont quand même avoir des réussites et parfois des problèmes aussi dans ces nouvelles carrières politiques et comme des hommes politiques.
Parce que c'était des ouvriers au départ, quand même, tous ces...
C'est ça. Donc là, tout de suite, on a par exemple Djalma Bon, c'est quelqu'un très, très important qui a fait une carrière comme un homme politique, qu'il était ouvrier. Et en 1982, il a été élu député fédéral. Donc, il est parti à Brasilia pour commencer cette carrière. Moi, j'ai fait une très belle entretien avec lui. Et il raconte toujours toutes les difficultés qu'ils ont eues vis-à-vis les hommes politiques déjà expérimentés, de l'élite brésilienne, donc des gens qui diplômés, qui sont nés dans des familles riches. Et donc, ils refusaient évidemment cette entrée des ouvriers dans la vie politique. Et c'était quand même un travail assez dur parce que finalement, il a tous les enjeux de ce travail législatif qu'il ne connaissait pas du tout. Donc, c'était une nouvelle prensage et on peut dire que quelqu'un a réussi. Il y a des autres qui n'ont pas réussi finalement. Et donc là, ils sont arrêtés ces carrières politiques. Ils vont continuer plutôt au syndicat. Ils vont quand même se désengager parfois parce qu'ils étaient assez dessus. Parce que c'est important de dire, je crois que pour qui n'est pas brésilien, il avait une telle énergie, une telle puissance dans la région de l'ABC, il pensait qu'il pourrait faire des changements assez importants et assez vite.
Une révolution rapide, vous.
Voilà. À Diadema, quand ils ont fait les premiers maires, qui c'était Gilson Menezes, ils disaient comme ça, on était en train de faire une révolution. Ce n'était pas la révolution, mais c'était une révolution, une sorte de révolution, parce qu'on va tout changer. Et finalement, on ne peut pas tout changer. Pas exactement par la voie démocratique, voilà, dans un État bourgeois, c'est ça, non, finalement. Donc, ils avaient des limites, des énormes limites. Et parfois, les métallurgistes qui ont été élus comme des députés, comme des conseillers des maires, comme des maires, ils ne pourraient pas accepter les limites. Et là, on va voir qu'il y a quelques d'entre eux qui vont s'adapter, si on peut dire comme ça, ils vont commencer à faire ce travail. Il y a des autres qui ne sont pas du tout adaptés, ils vont se radicaliser. Et de plus en plus, ils vont devenir radicaux. Et de plus en plus, ils vont avoir plus de problèmes pour continuer la carrière comme hommes politiques. Et là, ils vont commencer à avoir des problèmes dans les partis des travailleurs. Parce que les partis des travailleurs, ils commencent à changer assez vite. Donc là, on peut dire qu'à la moitié des années 80, la direction du parti était déjà dans les mains des syndicalistes, mais pas des syndicalistes ouvriers.
Pas dans la base, en fait, pas voilà. Dans la base des métallos.
Donc, qu'est-ce qu'il avait maintenant là? La direction a été formée par des syndicalistes fonctionnaires de la banque ou soit des syndicalistes des enseignants. Donc là, des gens diplômés, des gens avec beaucoup plus de capital culturel. Et donc, c'est ces gens-là qui vont devenir à la tête de parti. Ça change très vite. Et ça fait beaucoup de différence parce qu'il y a un moment que les métallurgistes ils vont commencer à travailler plutôt dans le champ syndical, vraiment. Les partis, il a été toujours important, il continue toujours important pour les syndicats des métallurgistes, mais l'investissement dans des carrières politiques, ça diminue beaucoup, ça commence à tomber. Finalement, il faut penser en plus qu'à 1980, à la fin de 1980, au début de 1990, la région de l'ABC a commencé avec une crise économique assez grave, très très grave. Finalement,
c'est-à-dire que les usines sont parties en Chine, on a quitté complètement le Brésil, n'était plus, parce que maintenant le Brésil s'était enrichi et il y avait une vraie classe moyenne et je pense que les multinationales avaient décidé
de... Oui, en plus on a eu un problème parce que finalement on a eu une ouverture économique, entre guillemets, et cette ouverture ça veut dire qu'on a commencé à recevoir des produits de la Chine, des produits des États-Unis sans des barrières, des impôts importants.
Sans barrières douanières.
Voilà, et là, ils sont entrés dans les pays et ça fait tomber plusieurs usines au Brésil qui ne pourraient plus continuer, ne pourraient plus produire. Et ça a frappé violemment, d'une manière assez forte, la région de l'ABC qui a perdu pendant les années 1990 plus ou moins 40 000 postes de travail. Donc, on commence à vivre avec les fantômes du chômage, qui c'est partout. Si on disait comme ça, chaque métallurgiste à la région de l'ABC, s'il n'est pas au chômage, il a quelqu'un dans sa maison, chez lui, qui est au chômage. Ça peut être sa mère, son père, ça peut être son fils, ça peut être son frère, sa sœur. Il y a quelqu'un au chômage. Donc, ça a beaucoup changé la manière comme les syndicats recommencent à penser la manière de faire les syndicats. Donc là, on va voir un phénomène qui a été beaucoup étudié au Brésil, qui c'est la fin, qu'on dit, de la phase héroïque du syndicat des métallurgistes de la région de l'ABC, la fin de la phase héroïque aussi de la centrale unique des travailleurs. À 1999, plus ou moins, la CUT va faire un congrès où on trouve déjà une orientation politique assez claire qu'il faut laisser tomber les confrontations directes pour faire plutôt des négociations.
On est dans le dialogue social.
Voilà. On doit venir sur la table des négociations avec les entreprises parce que sinon, elles vont partir. Elles vont quitter la région de l'ABC. Et ça a été quelque chose d'assez important parce qu'on avait vraiment des usines qui voulaient faire ça, finalement. Il faut pas oublier ça. En 1989, Lula a s'apresenter pour la première fois pour les élections présidentielles. Et ça a fait un bruit énorme au Brésil. La première entreprise qui a dit « on quitte le Brésil tout de suite s'il gagne les élections », c'était la Mercedes. Donc là, il a...
C'est cohérent par rapport à l'histoire.
Voilà. Et donc, ils ont dit, on quitte le Brésil tout de suite s'il gagne les élections. Donc, c'était beaucoup de bruit, c'était incroyable, une élection très importante, un moment très important de la démocratie. Lula, il a perdu, il a raté les élections, mais c'était quelque chose de très, très serré, si on peut dire comme ça.
Et puis, il a fini par gagner après.
Ouais, voilà.
Parce que c'est quand même un métallurgiste qui a été président du Brésil.
Voilà, ouais. Après quelques années, on est arrivé. Mais finalement, pendant les années 1990, donc, il avait les problèmes de chômage. Il avait les problèmes qu'on appelle des restructurations productives au Brésil. Il y a des autres noms des autres pays, on sait. Mais finalement, les syndicats, il va essayer, les syndicats des métallurgistes, de s'arrêter, par exemple, de faire trop de grèves, trop de manifs, trop de choses comme ça, pour devenir plutôt un agent capable de faire la négociation. Non? Et ça, il faut dire, c'est important de comprendre que ça va faire tomber toute une génération de métallurgistes,
des syndicalistes
qui ne savaient pas du tout faire
ben non,
ça.
C'est pas très, puis c'est pas forcément très motivant non plus dans la lutte sociale,
voilà,
d'être négociateur auprès des patrons.
Voilà. Et là, on trouve des choses qui, c'est important parce que s'il avait une génération, que c'était cette génération qui a eu comme travail pousser la catégorie pour aller à la rue, aller à des assemblées, faire des manifs, des choses comme ça. Après, pendant les 1990, il faut dire à ces catégories qu'il faut s'arrêter. Et donc, je me souviens bien, il y a quelques années, que j'ai fait un entretien avec un ouvrier. Et lui, c'était déjà un peu âgé. Et il m'a dit comme ça, bon, moi, je fais toujours de confiance à mon syndicat. Donc, si mon syndicat, il dit qu'il faut faire la négociation, moi, j'accepte parce que je fais de confiance au syndicat. Mais finalement, je dois dire que ce n'était pas trop amusant maintenant, parce qu'avant, on pourrait résoudre les choses d'une manière un peu plus vite. Parce que si on arrête la production pendant une après-midi, l'entreprise, elle s'y bouge pour faire qu'est-ce qu'il faut faire. Avec la négociation, il faut prendre plusieurs jours, des mois et des mois. Mais si les syndicats pensent que ça va quand même. Donc, on commence à avoir un syndicat qui, au départ, était toujours poussé pour cette catégorie assez... je ne sais pas exactement comment on dit en français, mais c'était une catégorie qui, même sans aucune expérience politique, sans avoir la culture ouvrière, elle voulait des changements.
C'était ceux qui osaient, qui étaient les...
Voilà. Et même si...
Ils n'avaient pas peur.
Ouais, même si
ils n'avaient rien à perdre, en toutes les façons.
Voilà. Finalement, c'est ça. À la fin, c'est ça. Qui continuait comme ça. Et finalement, il y a un moment qu'il faut s'arrêter, il faut faire la négociation pour essayer de garder finalement les entreprises. Et là, on va voir un changement important qui, quelques chercheurs au Brésil, ils appellent comme les syndicalismes citoyens. Voilà. C'est quoi le syndicalisme citoyen? C'est ce syndicalisme-là qui fait la négociation, c'est ce syndicalisme qui s'occupe aussi au-delà de la catégorie, qui s'occupe aussi des chômeurs, qui pense des autres manières, par exemple, coopératif. C'est quelque chose d'important, voilà. Donc, il commence à prendre des drapeaux, si on peut dire comme ça, des drapeaux qui ne sont pas les drapeaux plus traditionnels du mouvement ouvrier. Non, là, ça, on va voir un énorme changement. Et ça continue toujours.
Peut-être justement aujourd'hui où le Parti du Travailleur est au pouvoir, est-ce que ça a changé les choses pour les syndicalistes?
Oui, ça a beaucoup changé les choses pour les syndicalistes. Et on peut dire qu'on a eu des phases différentes. Non? Voilà. Donc, quand Lula est arrivé au pouvoir, moi j'ai eu la chance finalement parce que j'étais en train de faire mon terrain. Pendant les campagnes de 2002 et après pendant les premiers semestres de 2003. C'est un moment assez important pour la région de l'ABC, finalement. Lula a gagné les élections, donc les ouvriers disaient, on a arrivés au pouvoir. Pas Lula, pas les PT, nous, les métallurgistes.
C'est tout le monde et c'est ceux qui ont fait la grève.
Finalement, on est arrivé au pouvoir. Évidemment, qu'on a eu, Lula, il a fait un gouvernement où il avait un moment économique important qui a beaucoup aidé, finalement.
Effectivement, il est arrivé à un moment favorable où la crise économique était moindre.
Voilà.
Donc, il a profité d'un contexte économique très positif, en tout cas à son arrivée au pouvoir.
Voilà, il y a bien profité de ça. Il a fait monter beaucoup la production et aussi les emplois dans la région de l'ABC, mais pas seulement la région de l'ABC, évidemment. Une des choses importantes que les partis de travail ont fait au pouvoir, c'était plutôt de créer des travail formels, non, des postes de travail formels. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Au départ, on a une catégorie qui se sent très, très contents d'avoir un métallurgiste comme président de la République. Et là, on va voir des choses assez différentes parce que ces syndicats-là, c'est toujours les mêmes bâtiments, donc c'est très, très symbolique. Où il avait, pendant les régimes militaires, toujours la police, des chiens, des choses comme ça, des gens qui entendaient garder ces bâtiments. On va commencer à recevoir dans ces mêmes bâtiments des ministres de travail, des ministres de la justice, des différents ministres qui viennent parler aux syndicalistes, qui viennent parler aux métallurgistes de la région de l'ABC. Donc, on a eu un premier moment qui c'était un moment assez important pour les syndicats. Par contre, il faut dire, Lula, il a essayé de faire une chose et je crois qu'il a quand même réussi d'une certaine façon, qui est fait tomber les divergences. Pas exactement les divergences, elles continuent toujours. Mais il a fait des efforts pour faire la réunion de tous les centrales syndicales qui... la CUT, la plus puissante, la plus à gauche, elle n'avait pas de rapport avec les autres centrales qui pensaient toujours que c'était des gens jaunes. Et voilà. Et donc, Lula, il a fait ses efforts. Et donc, d'un côté, c'était assez bien. D'autre côté, les syndicats et la CUT, pendant quelques années, elles étaient tellement attachées au gouvernement Lula qu'elles ont fait plutôt le soutien du gouvernement qui continuait quelques luttes qui c'était important de faire, mais c'était contraire aux intérêts de ces gouvernements-là.
En tout cas, merci Kimi d'être passé sur ce plateau et de nous avoir fait cette histoire du syndicalisme brésilien, de Lula gréviste quand il avait la vingtaine en 78 jusqu'à Lula président dans les années 2000. Et puis bon, moi j'espère que quand tu repasseras à Paris, tu reviendras sur ce plateau parce que je pense qu'on pourrait parler aussi de la situation actuelle au Brésil qui n'est pas forcément très évidente.
Non, pas du tout. Donc là...
Deux secondes.
Voilà, je crois que il faut juste dire qu'on est dans une situation assez compliquée au Brésil. Dans un moment que la démocratie, elle risque de quelque chose parce que la droite, elle commence à monter de plus en plus et mettre en question les élections. Et ça, c'est un problème assez grave. Même si les partis du travail, il a eu des problèmes, évidemment, il a fait des fautes, mais il faut dire quand même qu'on a fait des important avance avec les partis de travailleurs. Et dans ce moment, ce n'est pas le cas, finalement, de donner le soutien aux partis de travailleurs, mais plutôt à la démocratie au Brésil.
En tout cas, merci d'être venu.
Merci beaucoup. Je suis très contente. Merci beaucoup. Au revoir.